la mort en héritage.
Bonsoir, c'est le magazine sur Radio B, une émission consacrée à l'écriture, mais pas seulement. Ce soir, il sera question d'un roman pas comme les autres. Une sombre histoire de succession qui ne tourne pas à l'avantage d'une veuve, suicide suspect, accident surprenant, et au milieu, Robert Numas, détective privé à Bourg-en-Bresse, qui n'hésitera pas à voyager au Gabon et à La Réunion pour enquêter sur ces disparitions étranges. Sans oublier notre département de l'Ain, où une famille pas comme les autres se déchire. Et oui, il est question d'une châtelaine qui n'est pas la seule à se laisser aller à ses penchants sulfureux. Ça sent bon les polars de San Antonio ou les dialogues signés Audiard. Le 25 février 2023 est sorti aux éditions Estala La mort en héritage, le premier roman de Luc Charin. Qui se cache derrière ce pseudonyme? Nous allons le savoir tout de suite, puisque nous avons le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio B l'auteur burgien Luc Charin. Luc, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Luc Charin, avec un Y, hein, n'est pas votre n'est pas votre véritable identité, puisque dans le civil, vous vous appelez Jean-Luc Charin, avec un I.
Absolument.
Hein? Alors, pourquoi avoir joué avec votre prénom et votre patronyme? C'est pour cacher quoi? Comme pour Romain Gary, par goût de la provocation?
Oh, pas du tout, non. Non, non, c'est par goût de la farce, je dirais, de l'amusement. C'était pour donner un petit côté roman noir américain à mon roman. Le nom de Charin, en plus, est le nom d'un auteur américain qui s'écrit avec un seul R et un Y, qui n'a rien à voir avec moi puisqu'il est d'origine polonaise, mais c'était un petit clin d'œil aussi à cet auteur-là que j'ai pu lire il y a fort longtemps d'ailleurs.
D'accord. Alors bien, alors quelle place avaient les livres lorsque vous étiez enfant?
Ah, très important, même si quand j'étais enfant, c'était pas vraiment les romans policiers qui me passionnaient. Mais j'étais un grand voyageur sur carte et je lisais beaucoup de romans de Jules Verne, notamment avec un atlas dans un coin. Donc, ce qui m'a peut-être donné les goûts du voyage et puis le goût de la lecture, très certainement, oui.
Alors, justement, quels étaient vos écrivains, vos livres, vos genres de chevet?
Comme je vous disais, Jules Verne, beaucoup, quand j'étais enfant, c'est celui qui me vient à l'esprit. Ça a été aussi les BD, hein. J'étais un grand fan d'Astérix, Tintin un peu moins. et puis, disons qu'au début de l'adolescence, c'est Pilote qui m'a un petit peu conduit sur les chemins d'un autre genre de BD. Voilà, c'est un petit peu les souvenirs que j'ai de cette période-là.
Ouais. Alors, à l'école, qu'elle soit primaire ou secondaire, vous aviez quel rapport avec l'écriture, avec les rédactions et puis les mots en général?
Ah, j'aimais beaucoup ça, même si certaines thématiques ne me plaisaient pas toujours. C'est vrai que j'étais pas un grand fan de la description à la Zola. Mais quand le thème m'intéressait, j'étais capable de sortir une dizaine de feuillets pour raconter une histoire qui me tenait à cœur. Donc c'était déjà quelque chose que j'avais dans la tête et dans les tripes.
Alors j'ai parlé d'auteur burgien à votre propos. Vous êtes né à Bourg-en-Bresse, mais vous n'avez pas toujours vécu dans là. Alors à quel âge avez-vous eu envie de voyager? À part avec les mots et Jules Verne.
À part avec les mots et Jules Verne. En fait, dès que j'ai terminé ma formation d'informaticien, j'ai cherché à profiter de cette qualification pour aller voir un petit peu ailleurs ce qui s'y passe. C'est là que j'ai trouvé une société de services informatiques qui m'a envoyé au Gabon. Où j'ai fait deux séjours qui cumulés représentaient à peu près un peu plus de 7 ans, pendant lesquels effectivement j'ai découvert l'Afrique, j'ai découvert de nouvelles cultures, j'ai découvert de nouvelles façons de voir les choses, de penser, et puis ce qui m'a incité à continuer, hein, et aller voir notamment à La Réunion ce qui pouvait s'y passer aussi. Je dirais que des opportunités ou des contraintes familiales ont fait que j'ai débarqué là-bas. Ça aurait pu être ailleurs, mais bon, j'y ai passé 28 ans, c'est que c'était peut-être pas tout à fait un hasard.
Alors, vous avez passé la majorité de votre vie professionnelle en Afrique, non ?
Oui,
mathématiquement.
Oui, oui.
Donc, tout d'abord, donc, vous disiez au Gabon, puis à La Réunion. Oui, à La Réunion en Afrique.
Hein, ben, oui, absolument.
Même si c'est en France,
oui,
c'est l'Afrique.
Ça fait partie du continent africain. Mais
oui, oui. Donc, là, ne vous manquait pas trop, je pense, à la gastronomie. Enfin, ou autre chose, au vin, ou je sais pas, ou à tout ce qui est bon dans l'un, quoi.
Oui, mais bien sûr. Alors, je crois que on peut toujours avoir la nostalgie des choses et regretter un petit peu ce qu'on a quitté. Ouais. Mais je crois qu'il faut d'abord profiter de ce qu'on a à sa portée, de ce qu'on découvre. La cuisine créole est pas mal non plus. Les vins, bon, c'est un peu plus confidentiel.
Ouais.
Et puis, bon, j'avais quand même l'occasion de revenir pendant des périodes de congé, donc je n'étais pas tout à fait coupé de mes origines.
Et de vos racines.
Absolument.
Alors, pendant toutes ces années, loin du département de l'Ain, quelle place avaient les livres et l'écriture, alors ?
Ah, alors, ils avaient toujours une place, alors plus ou moins importante, suivant les périodes et suivant les obligations professionnelles qui ne laissent pas toujours le loisir ou l'envie de se plonger dans les livres. Mais bon, j'ai toujours lu de façon relativement régulière, plus ou moins suivant les périodes, comme je disais. Effectivement, pas mal de romans policiers ou de thrillers, mais aussi beaucoup de romans historiques. Je suis un grand passionné d'histoire et de généalogie, notamment. Et c'est vrai que ce sont les deux domaines dans lesquels je me suis plongé et que j'ai vraiment aimé, oui.
Ouais. Est-ce qu'on lit forcément les mêmes choses lorsqu'on est loin de son pays ?
Ah ! Bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. pour ce qui me concerne, non, pas vraiment. Je pense que, j'ai pas souvenir d'avoir sélectionné des lectures par rapport à l'éloignement. Alors peut-être que le fait de lire des bouquins historiques donc, qui vont reposer beaucoup sur ce qui a pu se passer dans le cadre de la France géographique en tout cas, peut-être, mais bon, je ne sais pas, je ne saurais pas répondre à cette question de façon absolue en tout cas.
Ouais. Alors, quel intérêt portiez-vous pour la littérature gabonaise et réunionnaise ?
Ah, alors gabonaise, j'avoue que j'en ai peu de souvenirs. Je ne sais pas si j'y ai eu accès, mis à part des ouvrages documentaires. En revanche, la littérature réunionnaise, oui, j'y ai eu accès et je l'ai aimé, notamment dans ces aspects romans historiques là aussi, puisqu'on a un auteur comme Vaxelaire qui est un historien de La Réunion et qui a écrit des romans qui se situent dans le cadre de La Réunion, des Mascareignes ou de cette zone géographique en général. Beaucoup des romans aussi sur la période de l'esclavage, qui était une période traumatique, mais qui aussi donne lieu à des romans intéressants et où effectivement l'action se mêle à l'histoire. Voilà. Oui.
Alors l'informatique mène à tout à condition d'en sortir.
Absolument.
Hein, vous avez travaillé ensuite dans les ressources humaines, notamment pour le quotidien de La Réunion et de l'océan Indien.
Oui.
Vous auriez eu envie de passer des RH au journalisme ?
Oui. J'avoue, je n'y ai pas vraiment songé. Alors c'est vrai que j'étais au quotidien plutôt en fin de carrière. Hein. J'ai passé 20 ans dans le logement social auparavant. Donc c'est pas quelque chose que j'avais envisagé, mais en revanche l'attrait pour les mots m'aurait peut-être entraîné à écrire des éditos comme je peux le faire aujourd'hui dans un autre cadre. J'en ai pas eu cette occasion, peut-être que ma période là-bas était un peu courte, rétrospectivement, peut-être que c'est une carrière que j'aurais aimé faire.
Ouais.
Voilà.
Alors, vous n'avez pas attendu d'écrire pour voyager, mais vous avez écrit après avoir voyagé. Alors, pourquoi avoir attendu votre retour dans l'Ain pour vous lancer dans l'écriture ? Alors, moi, ça s'est fait avant et que...
Ah, je m'étais un petit peu lancé avant. J'avais commis une chronique familiale donc, dont le public était forcément un peu plus restreint.
Ouais.
Et qui se basait sur des recherches généalogiques que j'avais pu faire ou que mon père précédemment avait pu faire. Et j'en avais extrait quelques personnages qui me paraissaient intéressants et sur lesquels j'avais brodé un petit peu j'avais brodé quelques aventures. En fait, j'avais bouché quelques trous qu'il y avait dans la documentation. Et bon, c'était peut-être mon premier essai semi-romanesque.
Voilà.
Mais effectivement, après, je me suis... Enfin, le premier, La mort en héritage, c'est le premier véritable roman. D'abord parce que c'est tombé à une période où j'avais beaucoup de temps. Je suis rentré en métropole au moment où la métropole rentrait en confinement. Donc c'est vrai que ça laissait pas mal de loisirs. J'étais en quasi-retraite à ce moment-là. Donc, ça a été la période rêvée pour me lancer à fond dans l'écriture et pour terminer un roman, ouais.
Alors, vous êtes passionné de généalogie, vous l'avez dit, et avez profité de vos retours dans l'Ain à votre retraite pour faire des recherches sur votre famille et entreprendre une autobiographie, c'était ça, à peu près
Avant, c'était avant.
C'est ce que j'ai lu, c'était pas juste, mais bon, à peu près.
Oui.
Donc, c'est de là que vous est venue l'envie d'écrire un premier roman.
Oui, c'est-à-dire comme je disais, ce premier essai, je dirais semi-romanesque, où j'avais un petit peu brodé sur la vie des personnages, m'a donné envie de créer des personnages de toutes pièces et de pouvoir en faire un petit peu ce que je voulais, sans être lié par la vérité historique, ou en tout cas la pertinence historique. Donc voilà, oui, je pense que c'est comme ça que ça a commencé.
Ouais. Alors, quelles sont vos sources d'inspiration, les livres, le cinéma, les faits divers, les...
Ah, je crois un petit peu tout quand même. Les livres, bien sûr, le cinéma, la musique, enfin tout ce qui a constitué mon environnement depuis les quelques années que j'ai pas pu passer sur Terre. Les lieux aussi m'ont beaucoup inspiré. Je suis parti des lieux pour ce roman. J'avais trois lieux qui me tenaient à cœur, donc qui sont les lieux où le roman se situe, le Gabon, la Réunion la région de Bourg. Et c'est ce qui a constitué le point de départ. Après, en partant de ces lieux, j'ai voulu créer une histoire qui puisse les rassembler et qui soit assez plausible, disons, pour rassembler effectivement ces trois lieux que j'affectionne. Ouais.
Alors, vous avez forcément une préférence pour les polars, vous, qu'ils soient romans ou films ? Vous vouliez forcément un polar, d'ailleurs ?
Je suis parti là-dessus. Alors pourquoi, j'avoue, je ne saurais pas trop le dire aujourd'hui. Ça aurait pu être qu'un roman plus historique. Encore aurait-il fallu là que je me lance peut-être dans des recherches beaucoup plus longues et que je sois là prisonnier d'une réalité historique et de la persistance de l'histoire. Donc là le roman policier me permettait d'être totalement libre, de tout en bâtissant une histoire qui soit, qui ne soit pas une petite romance sympathique, mais quelque chose qui tienne en haleine, avec du suspense, avec des personnages qui ne soient pas toujours très reluisants, enfin voilà, c'est tout ça.
Ouais. Alors, vous saviez de quelle façon très précise où vous vouliez aller, ou c'est en l'écrivant que certaines idées, certains personnages, certains lieux sont apparus ?
Oh, c'est c'est plutôt la deuxième solution qui est la bonne.
Ouais.
J'étais parti sur un vague plan pour commencer l'histoire, mais en fait ça a complètement dérivé parce que au fur et à mesure on s'aperçoit que les personnages ils font un petit peu ce qu'ils veulent. En tout cas, ils ont une vie qu'on leur dessine petit à petit et qui les entraîne vers des aventures qui n'étaient pas forcément prévues au départ. On crée aussi des ruptures dans le récit. Et puis, il faut donc après s'adapter, revenir un peu en arrière, savoir si tout est cohérent, et puis quelquefois modifier un petit peu pour respecter cette cohérence. Donc en fait, le roman ne ressemble pas beaucoup à ce qui était envisagé au départ, oui.
Ah ouais. Alors, combien de temps vous a-t-il fallu pour écrire ce premier roman ?
Ben, vu la période dont je parlais, qui était la période de confinement, où j'avais quasiment que ça à faire, j'ai mis 6 mois. Voilà. Ouais. Alors je suis là en train d'en écrire un deuxième, et ça mettra certainement beaucoup plus longtemps à naître.
Alors, quels ont été vos premiers lecteurs, vos premiers correcteurs, avant de passer à la phase de recherche d'un éditeur ?
Ah, eh ben j'ai sollicité des amis volontaires pour refaire une lecture, et puis surtout, dans un premier temps, me dire, est-ce que ça vaut le coup que j'envoie ça à un éditeur, ou est-ce que je range ça dans un tiroir et puis je fais autre chose. Les retours ont été plutôt positifs, hein, c'est pour ça que j'ai continué. On m'a aussi fait des remarques, hein, sur les choses qui paraissaient pas toujours très, très pertinentes, des effets de style qui n'étaient pas forcément très, très intéressants ou qui ne correspondaient pas à ce que, pour le public en tout cas, concerné à ce que moi je pouvais envisager. Enfin voilà, des petites choses comme ça qui ont fait évoluer le roman. Et puis qui m'ont permis d'en envoyer une version, je dirais, pas trop mauvaise à l'éditeur. Oui.
Alors, quel était le retour de ces premiers lecteurs et correcteurs alors, sur le fond, hein, sur le fond. Enfin,
ouais, sur le fond, comme je disais, oui, l'histoire était paraissait intéressante. En
ça
tout cas,
plu,
à leurs yeux, ça leur a plu.
Ouais.
Après, oui, c'était sur le style, c'était sur des petites choses comme ça qui, bon, chacun ayant en plus un avis un peu différent, il fallait que je prenne un petit peu ce que je pouvais prendre et puis ce que j'avais envie de prendre, parce qu'il y a des choses que j'avais pas envie de modifier non plus, même si on me disait que c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire. Ouais. Voilà, mais oui, c'était un retour positif, sinon je serais pas allé plus loin.
D'accord. Voilà. Alors, le choix du titre de votre roman, hein, La mort en héritage, s'est imposé de lui-même ou vous avez cherché longtemps ?
Ah, je vais vous avouer une chose, c'est mon éditeur qui m'a soufflé ce titre-là, j'avais pas choisi celui-là d'abord.
Alors c'était lequel alors ?
J'avais choisi Le syndrome de Marguerite.
Ouais.
Et puis, bon, on m'a dit que c'était pas très vendeur. Donc, j'ai dit, bon, ben ok, après tout, c'est pas moi le professionnel dans l'histoire.
Ouais, ouais.
Donc, allons-y sur un autre titre qui correspond peut-être plus, et je reconnais, au type de roman que mon titre initial. Que j'aimais bien pourtant, mais bon, voilà, il y a des contingences qui font que...
Alors, vous aviez forcément dans l'idée de faire éditer votre roman, vous auriez pu le garder pour vous et vos proches ?
Ah non, non, justement, c'était le...
Ah oui.
Le projet c'était de faire éditer quelque chose, c'est-à-dire de sortir d'une... de quelque chose de confidentiel, de se confronter à ce monde de l'édition que je connaissais absolument pas, et de voir ce que ça pouvait donner, quoi. Quel serait le devenir de ces 300 et quelques pages que j'avais grattées pendant 6 mois. Est-ce que ça allait être bien reçu au-delà d'un public, je dirais, de connaissances ? Est-ce que c'est quelque chose qui allait se vendre ? Est-ce que, voilà, c'est toutes ces questions et auxquelles pour lesquelles je voulais des réponses. Oui, oui. Ouais. Donc le but, c'était bien de le faire éditer.
D'accord. Alors comment fait-on pour rechercher un éditeur ?
Eh bien, comme je vous disais, je ne connaissais pas du tout ce milieu-là, donc j'y suis allé, je dirais, de façon très candide. Hein. Je suis allé voir sur Internet des éditeurs qui correspondaient, dont la ligne éditoriale correspondait à peu près à ce type de bouquin.
Mais il y en a un paquet, non ?
Ah, il y en a un paquet.
Alors,
j'ai éliminé, je dirais, tous les...
Soi-disant plus gros ?
Les gros éditeurs, parce que,
ouais,
bon...
Ça ne sert à rien.
Il y a peu de chances, effectivement, d'être édité sans avoir sans avoir un nom ou sans avoir déjà fait son trou dans le, dans le milieu. Donc je l'ai, c'est sur des éditeurs un peu plus petits. J'ai dû en sélectionner, je ne sais pas, une douzaine, quinzaine. Et puis, j'avoue que j'avais l'impression de lancer un bouchon à la mer. une bouteille à la mer, plutôt. Le bouchon, c'est dans, c'est dans la rivière, plutôt. Et j'ai eu des réponses qui... Enfin, j'ai eu pas mal de réponses. J'ai eu, sur 15, je crois que j'ai eu 5 réponses, ce qui est pas mal, je trouve. J'en ai un qui m'a dit non, j'en ai deux qui m'ont dit oui, j'en ai deux qui m'ont dit oui, mais en me demandant de l'argent.
Ah ouais.
Donc
faut bien vivre.
Exactement. Ouais. Donc j'ai sélectionné les deux qui jouaient vraiment leur jeu d'éditeur. Ouais. Et puis j'en ai choisi un parce qu'il fallait en choisir un. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé chez Estelas Éditions.
Comment s'est passée la rencontre avec eux alors?
C'est une rencontre qui n'est pas du tout une rencontre physique, puisque l'éditeur est à Narbonne, donc qui est un peu loin pour y faire une visite régulière, à moins d'avoir l'occasion d'aller là-bas. Donc c'était essentiellement des échanges par email. Mm-hmm. Hein. D'abord sur la façon dont les choses allaient se passer, sur mes disponibilités pour aller faire des dédicaces pour... puisqu'il fallait prendre son bâton de pèlerin pour vendre le bouquin. Et puis ensuite, bien sûr, des échanges là beaucoup plus, je dirais, professionnels, entre guillemets, sur le contenu du bouquin, sur les modifications à apporter, alors non pas sur le fond, mais sur la forme, et sur les choses à... qui non indispensables, qui pouvaient être éliminés parce que le papier coûte cher et que le roman il se doit d'être aussi un produit rentable
et efficace aussi.
Et efficace, ouais, voilà.
Ouais. Donc les critères de sélection des éditions Estelas sont exigeants. J'ai vu sur internet.
Hein, oui, absolument.
Ouais. Vous avez beaucoup retravaillé les documents que vous leur avez transmis.
Je l'ai beaucoup retravaillé sur la forme, sur des comme je disais un petit peu tout à l'heure en parlant des exemplaires que j'avais confiés à des amis. Je pense comme beaucoup d'ailleurs, j'avais des tics de langage et donc d'écriture qui à l'écriture se voient encore peut-être plus ou s'entendent encore plus qu'à l'oral, et qu'il a fallu éliminer et remplacer par des formes plus classiques dans la littérature. Donc j'avais, je ne sais pas, pour citer un exemple, j'avais une tendance à mettre beaucoup de coupures dans les phrases, en ayant l'impression que ça donnait un certain rythme, donc y compris des coupures qui n'étaient pas du tout grammaticalement correctes, où certaines phrases se retrouvaient mais volontairement sans verbe, par exemple. Bon, ça, c'est une chose que j'ai dû retravailler, parce qu'à petite dose, ça peut être intéressant. Systématiquement, c'est, je pense, assez désagréable pour le lecteur. D'ailleurs, certains m'en avaient fait part avant.
Comme quoi. Alors, le résultat de tout ce travail d'écriture, de correction et de recherche d'éditeur est la sortie le 25 février 2023 aux éditions Estelas de La mort en héritage, le premier roman de Luc Charin. Donc, c'est l'histoire de Sandrine, la veuve d'Édouard Froment, qui embauche Robert Numas.
On peut dire Numa. Hein.
Numa,
Numa,
ouais.
Oui,
Numa.
Je pense.
Bon, Robert Numa, ouais. Donc détective privé à Bourg-en-Bresse. Oui, comme à Bourg, on ne prononce pas le... Comme au Yonard, on prononce pas le X. Là, on prononce pas le S, d'accord. Donc, Robert Numa, détective privé à Bourg-en-Bresse, afin de démontrer que son mari ne s'est pas suicidé, sinon il ne pourra pas toucher le capital d'une assurance vie.
Absolument. Hein, oui, c'est bien ça.
Donc, Robert Numa, ça pourrait être vous, même s'il est plus jeune. Mm-hmm. L'enquête se passe dans l'Ain, mais aussi au Gabon et à La Réunion. Vous n'auriez pas inventé le polar autobiographique.
On m'a déjà fait le coup.
D'accord. Robert Numa, c'est vous? Ah, ça pourrait être vous ?
Ça peut être en partie moi, en tout cas, il y a des choses qui le concernent, bien sûr. Mm. Mais je pense que dans tous les personnages, il y a quelque chose de moi aussi. Alors, c'est vrai que, oui, il y a des choses qu'il aime. Il aime le hard rock, j'aime bien ça. Il aime les belles voitures, j'aime bien ça aussi, même si je n'ai pas d'Alfa Romeo Montréal.
On fait ma question.
Oui, quelque part, il a des choses qui sont des choses qui m'appartiennent, et puis des tranches de vie qui ressemblent fortement, oui.
Ouais. Alors, le roman débute par la découverte du corps d'Édouard Fromont, professeur d'histoire à la faculté de Lyon, dans l'église de Brou, au pied du gisant de Marguerite d'Autriche. Après le polar autobiographique, le roman de terroir, vous n'allez pas être facile à classer.
Ouais, je sais pas, est-ce qu'il faut nécessairement être classé?
Si on le veut pas...
On l'est forcément, je sais pas...
On l'est pour vous, non?
Polar de terroir, peut-être.
Polar de terroir.
Ça serait pas mal, non?
Voilà. Ouais. Donc, Robert Numa est l'anagramme d'un célèbre détective privé de fiction dont je ne dévoilerai pas l'identité.
Oh non, il faut laisser chercher le lecteur. C'est pas très difficile non plus.
What?
Si
bon. Quand même. Sans Internet, on aurait du mal. Enfin, moi, j'aurais du mal. Wikipédia dit de lui qu'il est cynique de détective privé dont on ne dévoilera pas l'identité. Donc, il se dit... Wikipédia dit de lui qu'il est cynique, gouailleur, très désinvolte. Il ne connaît pas toujours la réussite, mais ne laisse pas les dames indifférentes. Ce portrait est proche de celui de Jean-Luc Charrin ?
Ah non, je ne crois pas.
Cynique.
Non, cynique, non. Je ne suis pas cynique.
Gouailleur.
Oui, un peu, oui. Ouais.
Très désinvolte.
Non plus, non.
Non.
Je suis un angoissé, en fait.
Il ne connaît pas toujours la réussite ?
Oui, bien sûr.
Voilà. Mais ne laisse pas les dames indifférentes.
Ah, ça, c'est pas à moi qu'il faut le demander.
Voilà, il faut leur demander. Alors, Robert Numa est un détective à l'ancienne.
Oui,
qui s'occupe de filature et d'enquête de moralité, en plus. Il rappelle des polars, je trouve, des années 60, ceux de Frédéric Dard. Mais pas seulement, de ces films et téléfilms noirs américains des années 50, 60, 70. Il est comme sa voiture, un peu dépassé, on dirait has-been, à la limite, pas à sa place dans le monde d'aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai, il a des côtés vieille France qui le classe pas parmi, effectivement, des personnages forcément très...
Il y a une quarantaine d'années, hein, 40...
Oui, c'est ça, il doit autour de 45 ans.
Voilà, il ferait plus vieux.
Il ferait plus vieux, oui, certainement. Ouais. Bah, il aime le hard rock, ce qui n'est pas forcément de sa génération non plus.
Non plus, oui. il n'a que 40... Ça, je vais y venir, mais il n'a que 40 ans. Et... Ça veut dire qu'il serait né en 60... Ah, en 80... En années 80.
Oui, à peu près, oui, c'est ça.
Le temps qu'il grandisse, on était plus forcément hard rock. On en reparlera tout à l'heure. Donc Robert Numa, dans les années 70, on va en parler, t'es un grand fan de rock et de hard rock de cette période qu'il n'a pas connue.
Oui.
S'il est né en 80, il n'a pas connu. Qu'il n'a pas connu. Les goûts musicaux de celles et ceux qui écrivent transpirent toujours dans leurs livres.
Donc
vous n'échappez pas à la règle. À part ACDC, quel groupe vous évite de réfléchir et de vous détacher provisoirement du monde?
Je suis très années 70, moi aussi. C'est vrai que je suis un grand fan aussi de Deep Purple. Je suis un grand fan de Scorpion, mais aussi j'aime beaucoup Pink Floyd. Un autre genre.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est très catalogué 70s. Voilà. Oui.
Les grands classiques, quoi.
Les grands
classiques des années 70, voire 80. Ouais. Voilà. Donc, l'intrigue de la mort en héritage tourne autour de la famille Fromont. Trois frères morts de façon suspecte, du moins pour Robert Numa. À la base. Donc, une histoire de famille pas facile à suivre. C'est la raison pour laquelle vous avez en introduction, répertorié les personnages.
Oui, mais pas seulement, parce que c'était aussi une exigence éditoriale. Tous les bouquins qui sont publiés chez Estelas ont cette marque de fabrique.
D'accord. Donc, pas facile de s'y retrouver au début. Les histoires de famille, dès qu'il y a de l'argent, c'est toujours compliqué, alors.
Oui, je pense, oui. Oui, oui. Ouais. La famille et l'argent, ça fait rarement bon ménage quand le gâteau est insuffisant, en tout cas pour ce qui concerne l'un ou l'autre des membres de la famille. Ouais. Oui, ça peut créer de fortes tensions, au ouais. minimum. Mmh.
Donc, dans la mort en héritage, bon nombre de personnages sont séparés ou divorcés. Mmh. Hein, pourquoi autant d'instabilité matrimoniale ?
On se demande.
Ben oui.
Ouais, ouais, pourtant, c'est vraiment pas mon cas. Oh non, je n'en dirai pas plus là-dessus. Je crois que c'est aussi un reflet.
C'est, ah bon ?
C'est aussi un reflet de l'époque. Hein. Je crois qu'on dit qu'à peu près...
À ce point-là, ils sont tous... quand même.
Je crois qu'on dit qu'à peu près 50% des mariages qui finissent par un divorce. Donc, ça fait quand même un taux important. Ça peut se retrouver dans un bouquin, oui.
Ah ouais, ah ouais. Donc, c'est facile d'écrire une histoire avec autant de personnages instables sentimentalement et de rebondissements. Le risque n'est-il pas de perdre des lectrices et des lecteurs ?
Oui, c'est un risque. C'est pour ça qu'on se... Je me suis relu, 20 fois, 30 fois, 50 fois, j'en sais rien, pour être sûr que l'intrigue le tienne debout. Après, effectivement, oui, ça demande un peu de concentration
au
lecteur.
Hein. Parce qu'il y a des moments où on n'est pas perdu, mais juste à côté.
Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Mais je voulais pas bâtir quelque chose de trop simple non plus. Je voulais quelque chose qui puisse surprendre, dont la fin puisse surprendre aussi, où les personnages ne soient pas trop manichéens. Je crois que dans le bouquin, il y a pas un personnage qui soit vraiment blanc bleu quoi, ils ont tous quand même leur petite tare. Voilà, alors c'est un peu la rançon de effectivement qui est l'effort que je demande au lecteur, enfin ouais. à celui qui veut bien le fournir cet effort pour avoir une histoire qui me paraisse intéressante, en tout cas, qui me paraît intéressante.
Ouais, donc d'où l'intérêt de mettre la liste des personnages en début,
oui,
hein, finalement.
Oui, absolument. Ouais, ouais. Oui, mais ouais. si on pouvait se poser la question, je pense qu'au début de l'ouvrage, on se la pose plus à la fin, oui.
Ah, ouais. Voir une carte pour expliquer où on est, des fois.
Les cartes, on les trouve facilement sur Internet, donc c'est moins indispensable, ouais.
D'accord. Alors, les noms des personnages sont issus de votre imagination
Oui, totalement. Ouais.
Vous avez joué avec toutes les lettres, comme avec celle de Robert Numa, non ?
Ah non, pas du tout.
Ouais.
Non, il y a des... Les noms, je les ai piochés un petit peu au hasard. Là aussi, en essayant d'être relativement plausible, notamment sur les noms gabonais et réunionnais. Mm-hmm. Et puis les prénoms, parce que... J'ai choisi des prénoms que j'aimais bien, tout simplement.
Ah ouais. Alors, jouer avec les mots est aussi une de vos passions.
Oui, oui. Hein ?
J'imagine que les dialogues d'Audiard ou les mots de Frédéric Dard ont influencé votre façon d'écrire.
Oui, bien sûr. Enfin, même si c'est inconscient, mais oui. J'ai pas mal lu San Antonio donc à une certaine époque. Mm-hmm. Oui, je suis aussi un grand fan des dialogues d'Audiard et de certains grands films avec Blier, Ventura et d'autres. Mmh. et certainement que ça a influencé les dialogues que je voulais assez dynamiques aussi pour donner du rythme à... J'espère que c'est réussi en tout cas, mais c'était le but, oui. Ouais.
Alors, La mort en héritage fait penser à ces polars donc, des années 60, 70, et en particulier au San Antonio, on le disait, avec un côté érotique. Enfin, c'est pas le mot érotique, mais vous allez comprendre. Que l'on retrouve tout le long du livre. Hein, les femmes ne sont pas les dernières à se laisser aller à leur pulsion sexuelle. Je pense à Jeannine Fromont, la marquise de la Val-Romaine.
Oui.
Comme si vous aviez besoin de libérer vos personnages. Pas de tabou chez vous.
Ouais, non, pas de tabou si ce n'est pas nécessaire. Il y a certains tabous, il y a des choses que je n'aborde pas. Quand le sexe est répréhensible, ce sont toutes des relations entre adultes. Mais oui, ce sont des personnages dont la plupart ont une sexualité assez débridée. Ouais.
Très frivole.
Qui ne rechignent pas ou qui ne font pas semblant de ne pas aimer ça.
Ouais. Alors, dans votre polar, on voyage beaucoup, que ce soit dans l'Inde ou en Afrique, donc au Gabon, à La Réunion. J'imagine que vos souvenirs ont suffi pour relater les décors des déplacements en avion. Là, on peut dire que vous avez voyagé avec l'écriture. Vous avez refait le chemin pour voir où vous alliez, où vous écriviez les choses.
Non, en fait, enfin, je suis parti de souvenirs. Alors pour le Gabon, je suis parti de souvenirs que j'ai remis à jour parce qu'ils étaient quand même très éloignés.
D'accord.
J'en suis parti il y a 30 ans maintenant. Pour le situer à une époque moderne, il fallait quand même que je donne une vision du Gabon qui ne soit pas celle d'il y a 30 ans. Donc j'ai remis à jour un certain nombre de choses. Pour La Réunion, c'était plus facile parce que je l'ai quitté beaucoup plus récemment. Et du coup, j'ai oublié votre question.
Là, on peut dire que vous avez voyagé avec l'écriture.
Voilà.
Et pour le département de l'Ain ?
Pour le département de l'Ain, il y a des souvenirs qui étaient très ancrés, parce que j'y ai vécu quand j'étais plus jeune, et puis j'y revenais régulièrement. Donc je remettais à jour régulièrement ma base de données. Donc c'était pas trop difficile non plus.
Ouais. Alors, écrire un roman qui se déroule au Gabon et à La Réunion, c'est aussi une façon pour vous de vous remémorer le bon temps ?
J'aime pas trop ce terme-là parce que c'est... Je parlais de nostalgie tout à l'heure. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « La nostalgie est le souvenir d'un passé qui n'a jamais existé. » Et je veux pas tomber là-dedans. Donc c'est simplement parler de lieux que j'ai aimés, que j'ai envie un peu de faire connaître par cet intermédiaire-là, mais sans qu'il y ait de regrets derrière. Aujourd'hui, je suis passé une nouvelle page de ma vie dans laquelle je me sens très bien. Et c'est tout, pas d'autre but que celui-là.
Ces deux endroits ne vous manquent pas ?
Non, je pense que j'y retournerai avec plaisir, mais c'est pas quelque chose de viscéral, voilà.
Mmh. Ouais. Alors Jeannine, la mère des trois frères Fromont, habite dans le château de la Val-Romaine, dans le Haut-Bugey. Il est totalement imaginaire ou vous êtes inspiré d'un château et d'un lieu précis ?
Totalement imaginaire. Je pense que j'avais quelques images photographiques de lieux qui m'ont permis de planter le décor, mais c'est pas... Faut pas chercher un château au réel, on y perdrait beaucoup de temps et on y dépenserait beaucoup d'essence. Ouais.
Ah, mais il se situerait où, par exemple, près de quelle ville ou quel lieu
il pourrait se situer du côté d'autres villes, il pourrait se situer dans ces coins-là, pas loin du plateau du Rotor, dans ces zones-là. Ouais.
D'accord. Il a failli avoir un château, hein, parce qu'un nouveau château a failli être construit. Hein, vous n'avez peut-être pas suivi.
J'ai pas suivi, non.
Oui, c'est comme le château de Guénélan.
Ah oui.
Voilà, et voilà.
Oui, ça y est.
Sauf que l'entreprise n'a... Voilà.
Malheureusement, périclité. Exactement, j'ai plus le nom du château en tête, mais oui.
Ça aurait pu être ce château-là.
Ça aurait pu être celui-là, pourquoi pas. Ouais.
Alors, continuons. Pour bon nombre de fans de feuilletons des années 80, vous voyez pas venir de toute façon, l'amour en héritage est une mini-série diffusée à l'époque sur Antenne 2.
Oui, je ne l'ai jamais vue.
Moi non plus. Donc, Donc vous n'avez pas peur qu'on prenne votre livre pour la version papier de ce navet télévisuel et qu'on confonde avec la mort en héritage?
Non.
C'est ce qu'on m'a dit. Ils m'ont dit, ah, non, l'amour
en héritage. Oui, il y a quelques personnes qui m'ont fait ça, mais c'était plutôt un clin d'œil. Je crois que la couverture rassure tout de suite si on avait ça en tête. La jeune fille qui se trouve sur la première page, enfin sur la page de couverture, ne collerait pas tellement avec l'image de ces séries-là, me semble-t-il.
Je sais pas, mais Perpétue des morts dans cette série-là. Hein,
Peut-être.
Encore la regarder. Donc, depuis sa sortie le 25 février 2023, quels sont les retours de la mort en héritage, tant de la part des lectrices, des lecteurs, que des médias?
Des médias, j'ai pu bénéficier d'articles dans Le Progrès, dans l'Impact, donc ce qui m'a aidé à faire la promotion de ce bouquin, et je les en remercie encore. Les retours des acheteurs sont plutôt bons en général. Alors, j'essaye de ne pas demander, en tout cas pour les lecteurs que je connais ou que je rencontre, ce qu'ils en pensent sans qu'eux-mêmes ne viennent vers moi, au risque qu'ils me disent par politesse ou pour ne pas me vexer que c'était très bien. Donc j'attends simplement leur retour, et je considère que ceux qui ne disent rien, c'est peut-être qu'ils n'ont pas aimé ou que... qu'ils n'en ont pas un grand souvenir. Mais en tout cas, je suis sûr que ceux qui viennent me voir pour me dire « j'ai trouvé ça vachement bien », je ne leur ai pas extirpé leur réponse.
Alors, certaines personnes à Bourg-en-Bresse et ailleurs, je pense à La Réunion, ont été surprises par la sortie de votre livre.
Surprise dans quel sens?
Est-ce qu'ils s'attendaient à ce que le Jean-Luc Charrin, alias Luc Charrin, sorte un livre?
Ah oui, bien sûr, il y a des gens qui m'ont dit « Tiens, je ne savais pas que tu écrivais, je ne savais pas, bravo de t'être lancé là-dedans ». Oui, il y a eu ces réactions-là. Je n'ai pas eu de réaction qui m'a dit « Qu'es-tu allé faire dans cette galère ?» ou « Je ne sais pas, tu aurais mieux fait d'aller planter des patates ». Non, donc je suis plutôt confirmé dans ma volonté de... dans la production de ce premier roman, et puis dans la volonté de continuer.
Ouais. Et à La Réunion? Quelques échos de La Réunion?
J'ai eu quelques échos là, d'amis à La Réunion, ouais. que j'ai là-bas, et bon, qui se situent dans la moyenne de ceux que j'ai pu rencontrer ici, avec certains qui m'ont dit « ouais, c'est vachement bien », puis d'autres qui m'ont rien dit du tout. Donc, pour lesquels j'ai...
C'est qu'ils ne vous ont pas encore lu.
Peut-être, aussi. Hein, aussi.
Tout simplement.
Aussi, il y en a peut-être qui s'en sont servis pour caler un meuble, c'est possible également.
Voilà. Ouais. Alors, côté séance de dédicace, on vous a vu à la FNAC de Bourg-en-Bresse, au Cultura de Bourg-en-Bresse, à Saint-Priest et Bourgoin-Jallieu. À Auchan, à Caluire et d'Ardilly, à l'espace culturel Leclerc à Bourg-en-Bresse et au Mac Presse à Ambérieu-en-Bugey.
Absolument, oui.
Alors ça fait quoi d'être de l'autre côté de la table et de se confronter à son public?
C'est pas toujours évident. C'est un nouveau métier d'abord pour moi.
C'est un métier pour vous.
Quelque part oui, si on veut le faire, je dirais de façon professionnelle, ça veut dire que c'est un métier. Alors, ça ne veut pas dire qu'on en vit de ce métier.
D'accord.
Mais ça veut dire qu'il faut le faire, en tout cas, l'envisager de cette façon-là, de le faire sérieusement. C'est un exercice de communication. C'est un exercice aussi de... Je dirais, il faut rompre avec sa timidité naturelle, où il faut aller vers les gens. Si on se contente de s'asseoir à la table et d'attendre que les gens viennent, on verra personne ou presque personne. À moins de s'appeler Guillaume Musset ou Franck Tillet, bien sûr, mais Sinon, oui, il faut aller vers les gens et il faut leur parler du bouquin, il faut leur donner envie. Il faut aussi accepter les semi-échecs ou les jours où on ne vend pas grand-chose, où les gens ne sont pas très réceptifs, où on n'a pas été bon. il faut accepter tout ça pour retourner la fois suivante. Puis la fois suivante, souvent, ça se passe au contraire très bien. Et on a de très bons contacts. Mais c'est autre chose. Ouais.
Alors, lors de ces séances dédicaces, vous avez fait de belles rencontres ?
J'ai fait des rencontres, oui, de gens qui sont allés un peu plus loin que le simple acte d'achat et d'autographe, hein, qui ont vraiment discuté, qui ont voulu discuter de ce qu'est pour eux le roman policier, de ce qu'ils attendent, de pourquoi ils sont intéressés par ce que vous avez écrit. Dans ce sens-là, oui, des rencontres intéressantes. Alors, c'est peut-être une ou deux à chaque dédicace, mais c'est bien, puis c'est ce qui donne envie de continuer. Voilà, quand on s'est ennuyé un peu pendant 2 heures parce qu'on n'a vu personne, après, quand on voit une personne qui discute avec vous pendant 1/4 d'heure, 20 minutes, qui perd un peu de son temps, qui vous le consacre finalement, ça, quelque part, ça remet un peu de baume au cœur.
Alors, on ne vous a pas encore vu en librairie au centre-ville de Bourg-en-Bresse, ni en médiathèque. C'est un rendez-vous forcément obligé, Bourg Librairie,
oui,
et médiathèque.
Oui, enfin, si. Je serais tout à fait prêt à y aller si on voulait bien de moi.
Voilà.
Le
message est passé. Bon, il est sorti qu'en février, il y a encore un petit peu de temps.
Oui. Disons qu'il y a j'ai essayé de contacter à peu près toutes les librairies ou les espaces culturels d'abord de la région proche et puis de la région un petit peu plus lointaine. Bon, il y a des gens qui ont été intéressés tout de suite, d'autres pour lesquels ça sera peut-être un peu plus long ou pour lesquels la période n'est pas la bonne. Bon, bref, je ne sais pas. Mais voilà, donc je fais avec... avec ceux qui veulent bien de moi, qui ont effectivement, qui mettent en place des moyens pour que la séance de dédicace se passe bien. Donc
Alors, savez-vous justement si on trouve la mort en héritage en médiathèque, que ce soit à Bourg-en-Bresse, Péronnat, Saint-Denis ou dans la région proche?
Je vous avoue que je n'en ai aucune idée.
C'est important, la médiathèque,
j'ai
en
pas
plus.
Fait, oui, mais je n'ai pas fait encore ce point-là, ce tour-là, puisque j'en suis encore à faire les tournées de dédicaces et que je vais élargir un peu mon rayon géographique. Ça ne veut pas dire que je néglige cette piste-là, mais on ne peut pas être partout en même temps. Donc, c'est quelque chose sur laquelle je me pencherai un petit peu plus tard.
Votre nouvelle vie d'écrivain ne fait que commencer ?
Je l'espère.
Ouais. Robert Numa continuera-t-il à enquêter ?
Je pense. Au départ, il n'était pas forcément, appelé à survivre à ce premier roman. Et puis j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit à quand le deuxième tome des aventures de Robert Numa ? Donc j'ai dit pourquoi pas, après tout. Finalement, il me plaît bien, ce gars-là. Il y a quelques personnages qui me plaisent aussi, qui pourraient revenir. J'avoue que j'avais commencé autre chose dont je n'étais pas très satisfait et je me suis du coup orienté vers un deuxième numéro d'enquête de Romère Dumas.
Où vous nous emmènerez, vous ?
Alors ça, je ne veux pas le dire maintenant, mais il y aura aussi...
On voyagera aussi ?
On voyagera aussi, ouais. Ouais,
dans d'autres pays aussi ?
Ah oui.
Mais forcément.
Oui.
Dans des pays que vous n'aurez pas connus, alors ?
Ou que j'aurais moins connu, peut-être.
D'accord.
Qui me semble intéressant.
Ouais. Alors, vous êtes fan de polar. Quelles autrices, quels auteurs ont actuellement votre préférence ? Et pas uniquement Musso et Tilliez.
Non. J'aime beaucoup Harlan Coben.
Ouais.
Et puis j'aime beaucoup aussi les polars scandinaves. J'aime beaucoup Indridason, notamment, dont j'ai lu pas mal de bouquins. L'auteur islandais, donc, qui situe des enquêtes dans un, voilà, dans un contexte qui est quand même très, très particulier et avec une touche, là aussi, très, très spéciale, donc, qui m'inspire très certainement, même si je ne prétends pas être à la hauteur de ce monsieur-là.
Peu d'auteurs français, finalement.
Oui.
Ouais.
Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Ouais.
Ouais. Ça, il y en a un paquet, hein.
Et oui, ouais. Oui, oui, oui.
Des jeunes, des moins jeunes et du bon, hein. Mais on ne peut pas être partout. Hein.
Bah, on fait des choix à un moment donné. Alors, comme tout choix, ils peuvent se révéler bon ou pas.
Et lors de vos prochaines rencontres dans les salons, c'est l'occasion de rencontrer des auteurs, des autrices.
Aussi.
Et
aussi.
De leur acheter un livre et inversement, quoi.
Et c'est bien ce qui se passe, d'ailleurs. Voilà.
Ouais, ouais, vous avez découvert des auteurs
Oui, bah, j'ai découvert, par exemple, Estelas à travers une journée de dédicace où un des auteurs de cet éditeur présentait un bouquin. Donc une jeune femme qui s'appelle, dont le nom d'auteur est Victoria Desilles. Et voilà.
Ça vous parlait, c'est pour ça, c'est son nom qui vous parlait.
peut-être. voilà, mais avec d'ailleurs qui m'a, qui m'a un petit peu mis sur la voie d'ailleurs pour aller chercher les éditeurs, peut-être pour m'orienter un peu plus sur celui-là.
Ouais. Alors, on a souvent critiqué le roman policier à l'époque, qu'on a longtemps assimilé à un roman de gare. Mmh. Aujourd'hui, c'est un genre à part entière, avec qui a son public, ses salons, qui est reconnu, et puis qui a ses stars, hein, même en France. Hein, je pense à Bernard Minier, Franck Tilliez, Olivier Norek, Pierre Lemaitre, et toute une génération plus que talentueuse. Vous avez l'impression parfois que le mot polar a une connotation péjorative?
Aujourd'hui. Non, j'avais pas vraiment cette impression.
C'est toujours la guerre entre la littérature blanche et puis, et puis le reste.
J'avouerai que je pense que dans certains milieux culturels, c'est quelque chose qui passe pas très bien, effectivement, qui est pas... qui est, comme vous disiez, assimilé à de la littérature de gare. Mais d'ailleurs, littérature de gare, pour moi, ce n'est pas forcément péjoratif. Parce que c'est une...
Ça peut l'être, mais bon.
Ça peut l'être.
Ça peut
mais
l'être,
ouais. Il y a de la bonne littérature dite de gare. En tout cas, moi, quand je prends le train, il m'arrive d'aller prendre un bouquin au kiosque. Et puis, je ne sais pas si c'est de la littérature de gare ou pas, mais c'est de la littérature qu'on trouve dans les gares. Voilà. En tout cas, voilà.
Maintenant, ça pourrait s'appeler la littérature de supermarché, vu qu'on la trouve en supermarché aussi.
Absolument.
Hein. Alors, un magasin burgien a parlé de thriller régional à propos de votre roman.
Oui.
En quoi est-il plus régional qu'un livre de Bernard Minier ou de Franck Tilliez?
Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Peut-être parce que... parce que le personnage est très lié à sa région d'attache, à sa région d'adoption.
Comme le Servaz de Bernard Minier, il est très attaché à ça.
Alors, est-ce que...
À ses Pyrénées?
Oui.
Donc, mais... le mot régional, ouais.
Le mot régional, parce que peut-être aussi que c'est... En fait... Alors, c'est pas de raison, peut-être le but, c'est pas d'être plus régional que l'un ou l'autre. C'est simplement que. On s'aperçoit d'ailleurs dans les séances de dédicace que la proximité avec du livre, avec sa région, avec les lecteurs, c'est un motif, je dirais, d'intérêt. Très, très important. Alors, surtout quand on n'est pas connu. Pour Bernard Minier, ça peut être plus posé, d'ailleurs, au début de sa carrière.
Bah oui.
Mais pour un auteur, je crois que l'ancrage local est important. Est important. Les lecteurs sont sensibles à ça. Beaucoup de gens qui m'ont dit... ça m'intéresse parce que ça se passe ici. Si ça s'était pas passé dans la région, je sais pas si j'aurais pris parce que moi, polar, je suis pas trop fan. Donc il y a aussi des gens qui sortent de leur zone de confort, entre guillemets, simplement parce que c'est régional, c'est local. Voilà.
Alors le polar et le thriller ont la cote à Bourg-en-Bresse et dans l'Ain. Je pense aux romans de Denis Nicolaï, Stéphane, et à Marque de fabrique de Cécile Baudin, et bien évidemment au livre de Robert Ferrari. Je pense à Amour, à mort, à Brou ou La soie de la vengeance. Notre département et son histoire se prêtent bien à l'écriture d'un roman et d'un polar ou d'un thriller en particulier.
Je pense que n'importe quelle, dans n'importe quelle région, on pourrait trouver des sources d'inspiration historiques notamment, hein, ou simplement dans la tradition, dans la tradition locale. Je pense pas que l'un plus qu'ailleurs, mais c'est la région que je connais le mieux. Si j'avais été normand, j'aurais peut-être situé mon roman à Cherbourg ou à Caen. Là, il se trouve que je suis originaire de Bourg, donc je l'ai situé là.
Donc on retrouve... avez-vous eu l'occasion justement de rencontrer ces auteurs?
Non, je n'ai pas eu l'occasion pour l'instant. J'aimerais beaucoup, bien sûr.
De les lire non plus?
Alors, certains que j'ai lus, d'autres pas. Non.
D'accord. Ouais. Bien. Vous avez lu le... Moi, je recommande le Cécile Baudin, qui se passe dans l'Ain.
D'accord. Bah, écoutez, non, je n'ai pas lu celui-là. Voilà. Donc
Denis Nicolaï non plus.
Je lirai avec plaisir, non plus.
Qui était présent à l'Académie de Brest l'année dernière.
Oui. Alors, je...
On en parlera tout à l'heure.
On en parlera tout à l'heure,
ouais,
effectivement.
Hein, dans quelques instants.
Ouais.
Alors, on retrouve votre plume sous votre véritable identité, de Jean-Luc Charin, à travers un billet d'humeur, l'Ergot. Sur le site internet de l'Académie de Brest, fondée et présidée par François Belay, et illustrée avec un dessin signé
Éric Martola. Bien sûr.
Comment devient-on académicien de Brest? Bon, c'est simple, on paye l'adhésion, mais bon, c'est peut-être pas...
Oui, il faut d'abord être accepté dans le Sérail.
Ah, il suffit pas seulement de payer.
Il suffit pas seulement de payer, il faut... présenter sa candidature et présenter ses motivations.
Ses papiers.
Ses papiers. C'est surtout montrer son attachement à la région, alors qu'on en soit originaire ou pas, hein, peu importe. Ouais. Mais en tout cas, qu'on ait envie de promouvoir ce territoire et de s'investir dans la promotion de ce territoire. C'est le principal, au-delà de la cotisation elle-même, bien sûr.
Ouais. Alors, qui vous a proposé ce billet d'humeur? Vous avez déjà un passé dans ce genre d'écrit?
Non.
Ben non.
Non, c'est... en fait, c'est... Alors, j'ai proposé ça à l'ensemble des académiciens c'était pas tellement longtemps après mon adhésion d'ailleurs, parce qu'à un moment où on se posait la question de la redynamisation du site, hein, et on se disait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer le lecteur, pour mettre un petit peu de gaieté, de... Enfin, ouais, permettre au lecteur d'y aller régulièrement et d'y trouver régulièrement quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, comme j'étais... j'étais intéressé par un exercice d'écriture. Celui-là m'a paru intéressant. Et donc, je l'ai proposé. Ça a été accepté. Je pense que ça aurait, le premier essai ou les deux premiers essais auraient été des échecs. On ne m'aurait pas laissé continuer. Donc, si on m'a laissé continuer, c'est que ça c'était pas trop mal perçu. Pour l'instant, je pense que ce billet se poursuivra, puis on verra. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra faire autre chose aussi.
Alors, dans l'Académie de Brest, l'écriture est très présente, que ce soit lors de la grande soirée des Bressans de l'année avec Mélissa D'Acosta et Vincent Duluc, les soirées dédicaces de livres avec Gilles Paris, Antoine Renan, Jérémy Vulk, Kent ou Denis Nicolaï. Je crois savoir qu'il y aura une place pour La mort en héritage le 1er décembre 2023.
Il paraît, oui, je me suis laissé dire aussi ça, que je serai présent. Oui, j'y serai présent bien volontiers, bien sûr. Ça sera une occasion de plus, mais quelle occasion de pouvoir présenter ce livre à des... à des lecteurs qui viendront pas forcément pour moi. Mais justement, c'est l'occasion de toucher un autre public. Mmh. Et c'est vraiment très important d'élargir son public.
Alors, l'histoire de la mort en héritage ferait un bon scénario de film ou de téléfilm. Mmh. Vous verriez qui tenir la caméra ?
Ah, pas moi. Pas moi. Qui pourrait tenir la caméra pour ce type de série ? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Réalisateur mort ?
Non, je préférerais qu'il soit vivant, mais je sais pas si James Cameron serait disponible, pourquoi pas.
Ouais. Je vous verrais bien dans le rôle du personnage principal, moi, Robert Numa, Jean-Luc Charin, détective privé, ça aurait de la gueule, non ?
Ouais, mais je crois que je suis un peu vieux pour le rôle.
Ah oui, mais maquillage, on vous rajeunit de 20 ans, il n'y a pas de souci.
Ah bon, alors pourquoi pas.
Bien, eh ben, merci Luc Charin d'avoir accepté l'invitation de Radio B.
Merci à vous.
Alors rappelons que vous avez sorti le 25 février 2023 aux éditions Estelas votre premier roman La mort en héritage. Comment peut-on se le procurer ?
Alors, on peut rarement se le procurer en librairie, en rayon en tout cas. Il faut le.
Ah, il n'y est pas encore, d'accord.
Il y est quelques fois. Il est en dépôt dans quelques librairies. Ouais. Je ne sais pas si je peux donner des noms, mais.
Oui.
Il est notamment en dépôt à la Fnac à Bourg et puis au Mac Press à Ambérieu. Et sinon, oui, c'est à commander, alors soit en librairie, soit sur les plateformes habituelles de la Fnac, Amazon, etc., etc., ou chez Cultura, par exemple.
Ouais. Voilà. Et on vous retrouve donc sur Internet via les réseaux sociaux et sur le site Internet de votre éditeur, www.estelasedition.com. Et puis vous serez en séance de dédicace, alors attention, au Leclerc à Tigneux-Jamézieux le samedi 16 septembre.
Absolument, oui.
À la FNAC à Belleville-sur-Saône le samedi 25 novembre.
Oui.
Et à l'invitation de l'Académie de Brest lors de la soirée dédicace dans les salons d'honneur de l'hôtel du département de l'Ain à Bourg-en-Bresse le vendredi 1er décembre 2023.
Voilà, il y a quelques autres dates qui se sont insérées entre-temps, mais je les mettrai toutes sur mon Facebook pour que tout le monde soit bien au courant de ces dates, puisque ça évolue au fur et à mesure que les accords se font avec les différents lieux.
Vous en avez quelques-unes
Oui, mais je n'ai pas
d'accord.
Forcément...
Bon, je pense que le plus simple, c'est d'aller sur votre...
Oui, ça sera simple, sinon il faudra que je fasse la recherche.
Voilà, sur les réseaux sociaux.
Voilà, c'est le mieux.
Bien. Eh bien, Luc Charin, bonne chance pour la suite de vos aventures.
Merci beaucoup.
Bonne écriture, bonne séance de dédicace. Hein.
Merci encore, oui. J'espère qu'elle sera... Elle sera très... fructueuse.
Voilà. Et à bientôt sur Radio B.
Ah, j'espère. J'espère bien être réinvité.
Bien. À bien bientôt. Au revoir.
Merci. Merci beaucoup de votre invitation, en tout cas.
La mort en héritage.